La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. Sommes-nous trop bêtes pour comprendre l'intelligence des animaux? C'est le primatologue et biologiste Franz De Waal qui pose cette question dans un ouvrage qui vient de paraître au Lien qui libère. Du crocodile au grand singe et du corbeau au poulpe, chaque animal est capable de complexité cognitive. Conception d'outils, mémoire fulgurante ou stratégie élaborée, les découvertes se succèdent au sujet de l'intelligence des animaux. Franz De Waal est l'invité de La Tête au Carré dans un instant, à l'occasion de son passage à Paris la semaine dernière. Émission réalisée par Stéphanie Texier, qui a été préparé par Chantal de Montagnier.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
L'intelligence animale dans le dossier de l'émission avec un invité exceptionnel aujourd'hui, le primatologue et psychologue Franz De Waal. Bonjour à vous.
Bonjour.
Très heureux de vous recevoir à l'occasion de votre passage à Paris pour présenter ce nouveau livre « Sommes-nous trop bêtes pour comprendre l'intelligence des animaux ?» et qui paraît au Lien qui libère. Franz De Waal, on a le sentiment aujourd'hui qu'il est beaucoup plus simple de parler librement des émotions chez les animaux, d'évoquer la culture, l'empathie, l'amitié. Est-ce que, effectivement, les choses se sont décontractées autour de ces thèmes?
Oui, je crois que oui, parce que le siècle dernier, on essayait de simplifier les animaux, on essayait de mettre tout ce qu'ils font dans une de deux boîtes, c'était soit un instinct, soit un apprentissage très simple, et on n'avait pas le droit de regarder autour de ces boîtes-là, c'était seulement ceux deux-là. Et il y avait même un tabou sur les émotions des animaux, la cognition des animaux, on ne pouvait même pas parler. Et les gens qui faisaient, ils étaient complètement ridiculisés. Moi aussi, j'étais ridiculisé quelquefois. Oui. Et maintenant, les derniers 25 ans, je dirais, il y a toute une génération de jeunes scientifiques qui demandent des questions différentes, qui sont pas liées à ces deux boîtes-là, forcément, et qui demandent des questions plus intéressantes. Moi, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Et maintenant, chaque semaine, on voit dans les nouvelles, on voit de nouvelles découvertes qui s'étaient faites sur les animaux, des choses complètement différentes, d'instincts et des choses comme ça.
Et donc, beaucoup moins de scepticisme autour de la compréhension des animaux. Vous racontez dans votre livre une multitude de découvertes autour de l'intelligence animale et de la cognition. On emploie ce mot précis. On va se retrouver dans un instant, Franz De Waal. Et je signale aux auditeurs que l'émission étant enregistrée, nous ne pourrons pas recevoir les messages comme d'habitude. Voyage sur les traces génétiques du Yéti aujourd'hui à la une de la science.
Bonjour !
Yéti !
C'est un monstre !
Non, laissez-moi, allez-vous-en !
Yéti, je t'en prie, va-t'en vite, sinon ils te tueront. Retourne sur tes montagnes, là où le monde est meilleur.
Voilà, ça n'était pas Brigitte Bardot, non, c'était le film Yeti, le géant d'un autre monde, film italien des années 70. Et pour parler de cette étude qui révèle une bonne fois pour toutes l'animal à l'origine de la légende du Yeti, eh bien cette analyse ADN de 9 reliques de prétendus Yeti qui dévoile une population d'ours assez mal connue des montagnes de l'Himalaya, et on en discute avec une spécialiste de la question, Axel.
Oui, on est au téléphone avec Géraldine Véron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur au Muséum National d'Histoire Naturelle, spécialiste des mammifères carnivores, et vous étiez commissaire de l'exposition Espèces d'ours l'année dernière au Muséum. Est-ce qu'il y avait vraiment un débat scientifique autour de cette question de l'identité du Yéti?
Oh ben, c'est surtout que ça fait longtemps que tout le monde parle du Yéti et des échantillons. On a tous eu en main ou vu des poils de soi-disant Yéti, et en fait la plupart des scientifiques étaient d'accord pour dire que c'était quand même certainement un ours, et qu'il y a beaucoup de croyances dans plein d'endroits reculés comme ça, où dès qu'on voit des animaux un peu imposants, on imagine des créatures absolument horribles, et en fait souvent ce sont des ours.
Vous avez eu des poils des poils de Yéti, vous, entre les mains ou pas?
Un collègue qui nous avait un jour dit qu'il faudrait qu'on analyse des poils qui seraient peut-être des poils de Yéti. C'était Michel Tranier, des figures du Muséum d'Histoire Naturelle, qui avait ça un jour entre les mains, qu'un collègue avait essayé de lui faire analyser.
Donc c'est une légende aussi au niveau des scientifiques. Comment ces chercheurs ici ont trouvé de l'ADN de Yéti alors?
Ben oui.
Alors en fait, il y a un certain nombre de reliques qui sont connues comme étant attribuées au Yéti. Donc il y en a qui sont retrouvés dans des monastères, il y avait des dents, il y avait même une crotte qui aurait été collectée, soi-disant, effectivement, à un moment où quelqu'un aurait suivi un vieil yéti, j'en sais rien, quand il cherche ses besoins. Enfin, tous ces restes, en fait, avaient déjà été une fois, enfin l'un d'entre eux a été analysé, ça avait fait débat parce qu'ils avaient trouvé que c'était peut-être de l'ours polaire ou peut-être un hybride d'ours polaire et d'ours brun, et la plupart des scientifiques disaient oui, mais ils ont fait ça sur un fragment d'ADN en fait trop petit et pas très significatif pour déterminer ce que c'était. Là, la différence, ils avaient 9 échantillons, ils ont fait un petit peu plus d'ADN, hein, même si c'est pas très très clair dans l'étude si vraiment ils ont analysé des grands fragments, plutôt des petits fragments, parce que c'est du matériel un peu difficile. Mm-hmm. Et sur ces 9, bon alors il y en a un qui est quand même du chien, donc
ah oui,
dedans, une donc il y a quand même, oui, tout est
rien
possible
à voir.
Voilà, et les autres sont des ours effectivement de la région, tous, soit des ours bruns, la plupart, et un ours noir asiatique.
Donc la balance penche vers cet ours brun alors?
Oui, voilà, apparemment ce serait à chaque fois qu'ils ont trouvé ces restes ou qu'ils ont conservé des restes, hein, y a des os aussi par exemple, et ce serait plutôt de l'ours brun local, on va dire, himalayen, tibétain.
Alors si on devait dresser un peu son portrait à ce yéti, on dirait quoi scientifiquement?
Bah là, tout simplement que c'est un ours himalayen, ouais. Simplement. Donc en fait, c'est un ours brun. Donc l'ours brun, c'est une espèce qui vit en Eurasie et en Amérique du Nord. Là, ce qui est très intéressant, c'est que le fait qu'ils aient étudié ces échantillons, plus d'autres échantillons collectés notamment au Pakistan, ils ont montré que cette population d'ours brun, donc dans l'Himalaya, et une autre population sur le plateau tibétain, serait assez divergente en fait des autres ours bruns. En fait, ils ont non seulement étudié ces échantillons un peu anciens sur lesquels ils ont pu faire des petits fragments d'ADN, mais ils ont aussi utilisé d'autres échantillons un petit peu plus faciles à analyser en faisant des analyses de génome mitochondriaux complet cette fois. Donc ça, ils ont un gros jeu de données produit par eux-mêmes, mais aussi en récupérant énormément de séquences qui étaient déjà présentes dans les banques de données. Et là, donc, ils ont fait une analyse assez poussée et également des datations. C'est-à-dire qu'en calibrant les arbres phylogénétiques obtenus avec des restes fossiles, ils ont pu dater les événements et estimer que cette population d'ours donc himalayens serait une des plus anciennes en fait populations divergentes des ours bruns, probablement isolées à la suite des glaciations, hein, lors d'un réchauffement, ils auraient pu remonter un peu sur ces régions à la suite des fontes de glaciers et se seraient retrouvés ensuite un peu isolés. Donc ce serait une espèce de reliquat d'une population isolée dans cette région.
Mais alors Géraldine Véron, comment on peut confondre un yéti avec un ours? Parce que quand on voit les images des yétis, c'est un grand ours avec un visage de singe quand même, a priori.
Alors c'est là où il y a une part peut-être de l'imagination, je ne sais pas. Enfin, il faut voir quand même que les ours bruns sont quand même de très gros animaux qui ont tendance à se dresser sur leurs pattes. Et il y a énormément de régions du monde où il y a des croyances comme ça sur des hommes bizarres ou des hommes ours. Donc c'est assez fréquent en fait. Hein. C'est quand même une très grosse bête qui peut faire plus de 2 mètres de haut. Après, sur le fait d'y voir un visage de primate, ça j'avoue que je vois pas d'où vient cette idée. Je pense que voilà, comme dans toute croyance, il y a une part d'imagination.
Mais au final, cette histoire de Yeti, c'était la motivation première de ces recherches ou simplement un moyen de faire de la génétique des populations des ours de la région?
Ben, je pense qu'en fait, c'était peut-être un moyen pour eux indirect. S'ils soupçonnaient que ce soit de l'ours brun himalayen ou tibétain, c'est un bon moyen d'avoir des échantillons finalement auxquels on n'en a pas beaucoup. Hein. C'est des populations qui sont très peu étudiées. Et donc finalement, que ce soit sur le plateau du Tibet ou sur les zones reculées de certaines parties de l'Himalaya, c'est un moyen indirect d'avoir des échantillons à analyser. Et effectivement, il se trouve qu'ils ont eu raison puisque ça a augmenté leur échantillonnage d'ours himalayens et ça a permis de mieux comprendre les populations de cet ours brun, mais aussi de l'ours noir himalayen. Donc il y a aussi une autre espèce dans la région qui est un ours dit à collier, qui est l'ours noir asiatique. Et de même, ils ont montré qu'il y avait une population d'ours noir asiatique relativement isolée. Donc là, on parle quand même de populations pour l'ours brun himalayen isolé à plus de 650 milliers d'années et pour l'ours noir asiatique himalayen plutôt aux alentours de 470 milliers d'années, hein, pas millions bien sûr. Des choses qui voilà qui remontent à certaines glaciations assez anciennes du Pléistocène, donc une histoire assez intéressante.
Il n'y a pas un petit côté déceptif pour le folklore local, pour les populations locales, de révéler l'identité du Yéti comme ça ?
Bah pour eux peut-être, parce que c'est certaines de ces pièces, on voit qu'elles étaient reliques dans des monastères et qu'il y avait dans certains cas des croyances ou des gens qui pouvaient peut-être vénérer le Yéti ou les reliques en question. Oui, malheureusement,
l'ADN a parlé, voilà, c'est
ça. Oui, alors peut-être que maintenant, il faudrait qu'ils réalisent que ils ont un ours brun un petit peu spécial, un ours noir un petit peu spécial aussi, et que ça peut peut-être devenir leur emblème local, et si ça peut aider à la préservation de ces populations, ça serait quand même intéressant.
Ben vous irez peut-être les convaincre, Géraldine Véron, faire un petit voyage là-bas pour rencontrer les populations. Tellement triste d'avoir la vérité scientifique donc autour de ce Yéti. Merci beaucoup à vous, en tout cas pour vos explications. Je rappelle que vous êtes spécialiste des mammifères carnivores. Et Axel, on se retrouve demain.
Et oui, à demain.
Allez, l'éthologue et primatologue Franz De Waal est notre invité dans un instant.
Songs to me. I'm not afraid to hear them. Bring your songs to me. I'm not afraid to hear them. You kept me waiting. I'll count to five. How do you feel?
Count to five.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Franz Deval, notre invité donc cet après-midi à l'occasion de la sortie en France de votre nouveau livre « Sommes-nous trop bêtes pour comprendre l'intelligence des animaux ?» ouvrage qui paraît aux éditions Les Liens qui Libèrent, livre sorti au mois d'avril aux États-Unis. Oui, hein, vous travaillez au centre de primatologie d'Atlanta. Est-ce que culturellement, l'approche des Américains ou des Français est à peu près la même sur justement le comportement animal ?
Oh, moi, je crois que c'est un peu différent parce que d'abord, les Américains, ils ont plutôt accepté le darwinisme plus, même si on entend le contraire. On entend qu'il y a les créationnistes, mais en fait, les Américains en général, ils acceptent l'évolution et les connexions avec les animaux plus que les Français, je crois.
Ah oui, tiens.
Oui.
Alors ça, vous me
surprenez Français,
en disant ça.
Les Français, ils avaient la marque. Hein,
oui.
Et ils sont toujours encore un peu frustrés que Darwin a gagné. Et les Français, une culture latine aussi, un peu une attitude différente aux animaux, je crois.
Ah oui.
Mais maintenant.
C'est-à-dire, non mais elle est plus loin, France de Val, c'est-à-dire.
Les animaux, ils sont pour manger surtout.
Ah oui.
Chaque animal est jugé par comment il faut le préparer.
Hein.
Ah oui. Oui. Et c'est une attitude qu'on trouve moins dans les États-Unis. Ils mangent aussi de la viande, c'est pas ça. Mais ils ont une attitude différente. Mais je sens que en Europe. Les choses sont en train de bouger aussi.
Ouais.
Et que l'attitude que les animaux sont des mécanismes qui vient de Descartes, dans un sens, hein, Monsieur Descartes, qui est français, mais aussi hollandais, il habite à Amsterdam, que cette attitude est en train de disparaître lentement.
Il faut du temps quand même. Hein.
Oui, parce qu'il y a encore beaucoup de scientifiques qui pensent un animal, c'est un stimulus response machine, et maintenant, comme j'ai dit, il y a toutes sortes de jeunes scientifiques qui pensent plus comme ça.
Ouais. Alors on va parler d'éthologie animale, évidemment, avec vous, mais on pourrait aussi faire une petite parenthèse américaine sur de l'éthologie humaine. Vous avez de beaux animaux politiques en ce moment à observer, Franz Deval, je pense évidemment à Donald Trump. Est-ce que quand on a l'œil observateur qui est le vôtre sur les animaux, on s'amuse beaucoup à observer aussi les comportements des hommes politiques?
Oui, mon activité favorite, c'est d'enlever le son, comme ça je ne peux pas entendre qu'ils se disent, parce que le langage humain, c'est très intéressant, mais c'est des traits aussi des observations. Alors c'est mieux de ne pas entendre qu'est-ce qu'ils disent et juste observer. Et c'est intéressant, quand Trump était contre les 17 républicains candidats, c'était presque tous des mâles. Il savait quoi faire. Il était imposant, il changeait son voix, il était comme un mâle chimpanzé dans un sens.
Ouais.
Et il l'a tous battu. Hein.
Pourquoi l'homme a autant de difficultés à se mettre dans la tête des autres espèces, Franz Deval? On l'évoquait un peu tout à l'heure, le processus a été extrêmement long. Et quand il y parvient, il a tendance à faire de l'anthropomorphisme en plus.
Oui, on a tendance de juger les animaux sur les qualités que nous on a. Alors on est très impressionné par des projets de langage, on est très impressionné par le projet de technologie, ou utiliser des outils. Mais dès que les animaux font des choses complètement différentes, par exemple l'écholocation qu'on trouve chez le dauphin et chez les chauves-souris, on n'est pas tellement impressionné par ça, on trouve ça pas tellement relevant. Et même si c'est très complexe, si on demande à un ingénieur comment dessiner un système de radar d'un avion, c'est un peu ça que les chauves-souris font. C'est extrêmement complexe, alors c'est une cognition qu'ils ont. Mais nous, ça c'est écolocation, c'est rien de pour nous. Alors on juge les animaux sur les sujets que nous on trouve importants. Et moi j'ai dit dans le livre, c'est mieux de prendre l'autre approche et on regarde les animaux dans leur milieu, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'il faut qu'ils font dans leur milieu pour résoudre leurs problèmes dans l'environnement. Et comme ça, on voit qu'un éléphant, c'est une créature complètement différente de nous et a besoin d'une intelligence complètement différente de nous.
Ouais. Et il faut essayer de se mettre dans la peau de ces animaux alors quand on les étudie, c'est-à-dire essayer d'être une chauve-souris ou un éléphant?
Oui, il faut s'imaginer dans leur situation, et comme ça on comprend mieux quel genre de problème ils envisagent. Et par exemple pour l'éléphant, on a toujours pensé que le tronc d'un éléphant c'est un peu comme un bras et une main et un bras, et c'est comme ça qu'ils étaient testés jusqu'à le moment qu'ils ont trouvé qu'un éléphant n'aime pas tellement fermer son tronc en prenant une branche ou quelque chose, parce que quand il ferme son tronc, il peut plus sentir. Et l'olfaction est partie. Et c'est comme ça qu'ils ont appris que pour un éléphant, le tronc n'est pas un bras.
Oui, la trompe de l'éléphant, donc effectivement assez fascinant. Vous aviez un professeur dont vous parlez d'ailleurs dans votre livre, qui lui avait beaucoup étudié les chauves-souris, c'est ça, Franz Devan?
Oui, c'est Donald Griffin qui a découvert que les chauves-souris s'orientent avec l'écholocation, mais aussi ils peuvent dans une salle comme ça, ici, et quand toutes les lumières sont parties, ils peuvent trouver une mouche et prendre la mouche. C'est un truc très complexe.
Ouais. Est-ce qu'on peut parler de l'intelligence animale pour toutes les espèces, au fond?
Oui, je crois qu'il y a des intelligences en pluralité. Il y a toutes sortes d'intelligences. Je ne vois pas ça comme une échelle, une dimension où il y a l'homme et les dieux, sans doute. Oui. Les dieux, l'homme, est suivi par toutes les autres espèces. Je vois ça plutôt comme une brouche où les branches vont dans toutes les directions. Il y a des spécialisations partout. Mm-hmm. Et les corbeaux peuvent être très intelligents dans leur domaine. Et nous, on peut être très, très intelligents dans notre domaine.
Oui. Les corbeaux, vous les citez pas par hasard, parce que vous les avez beaucoup étudiés. Vous aviez un couple de jeunes corbeaux, c'est ça?
Moi, j'avais des jeunes choucas.
Oui, c'est ça.
Oui, oui. Ouais. Quand j'étais étudiant, j'avais des choucas et c'est des oiseaux très intelligents.
Oui. Ouais. Et comment vous les avez étudiés alors? Parce que vous parlez d'une sorte d'échec d'ailleurs dans votre méthodologie autour de ces choucas au départ. Qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, il y a toutes sortes d'échecs dans le sens, il y a toutes sortes de tests qui étaient faits sur les animaux où on dit ils ne peuvent pas faire ci, ils ne peuvent pas faire ça. Et on trouve plus tard, avec des méthodes différentes, qu'en fait, ils peuvent. Par exemple, il y a aussi des études sur le corbeau, les jays, comment dire, c'est une petite sorte de corbeau, où ils ont fait des expériences, est-ce qu'ils cachent leur nourriture pour les autres, quand les autres peuvent le voir ou pas voir. Oui, il y a toutes sortes de ce genre d'expériences, et en fait, la conclusion que les théories d'esprit limité à l'homme, complètement disparu maintenant.
Alors, les découvertes sont nombreuses, effectivement, au fil des publications. Par exemple, vous citez l'exemple des éléphants. Pendant très longtemps, on a pensé qu'ils n'étaient pas capables d'utiliser des outils.
Mm-hmm.
Et ça, c'est assez récent comme découverte.
Oui, oui. Ça qu'ils ont fait, ils mettent un fruit dehors du cage des éléphants, il lui donne une branche. Et normalement, si ça serait un singe, bien sûr, le singe prend la branche et il va atteindre la banane. Mais l'éléphant ne faisait rien. Et là, ils ont fait une expérience où ils mettent des fruits très hauts. L'éléphant ne peut pas aller si haut, mais ils lui donnent des boîtes en bois.
Oui.
Et ils mettent ça très loin, et l'éléphant va chercher la boîte, il amène la boîte sous l'endroit où la nourriture est, et il se met dessus avec ses pattes devant. Et comme ça, il peut atteindre le fruit. Et là, ils ont compris que l'éléphant est très bien capable d'utiliser des outils, comme la boîte, mais il ne veut pas fermer son tronc pour prendre une branche. Et ça, c'est tout sur le sujet de mon livre, c'est la méthodologie doit être adaptée au animal. Et si on ne fait pas ça, on peut avoir des conclusions complètement fausses.
Les éléphants très doués également devant un miroir, comme on l'entend dans cet extrait.
Les éléphants se déplacent d'avant en arrière devant la glace, comme s'ils se demandaient « Pourquoi celui-là fait-il exactement pareil que moi ?» Puis, ils finissent par comprendre et adoptent un comportement que nous qualifions d'auto-centré. What we call self-directed behavior.
Ce test classique consiste à marquer l'éléphant à un endroit de son corps qu'il ne peut voir que grâce au miroir. Essaiera-t-il d'éloigner la marque sur son propre corps ou bien sur la silhouette qu'il a en face de lui? Jusqu'à présent, seuls des singes anthropoïdes, des dauphins et des pies ont réussi le test. Aujourd'hui, grâce aux travaux de Joshua Plotnik, on sait que les éléphants aussi se reconnaissent dans la glace.
Alors ça, c'est une découverte très importante, Franz Deval, parce qu'il y a derrière, évidemment, cette expérience, la conscience de l'animal qu'il a de lui-même.
Ouais. Oui, Josh Plotnick, c'est un étudiant à moi. Ouais. On a fait ça ensemble, d'abord à New York et après à Thaïlande. Et on a fait ça surtout parce que moi, je suis intéressé dans l'empathie. Et il y a de certaines théories de l'empathie qui disent que dès qu'on a un sens plus fort de soi-même, on peut être plus empathique avec d'autres. Mmh. C'est très intéressant comme théorie. Et c'est pour ça qu'on avait pensé, mais les éléphants sont très empathiques, ils sont très altruistes. Et peut-être ils peuvent aussi passer ce test-là. Mmh. Mais les éléphants étaient testés avant avec des petits miroirs. Alors, si tu mets un petit miroir devant un éléphant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir beaucoup de gris qui bouge dans le miroir. Et ils n'ont pas réagi à ça. Et ils avaient conclu que l'éléphant manque un sens de soi-même. Et nous, on a fait la recherche avec des miroirs beaucoup plus grands, qui peuvent sentir derrière aussi. Ils avaient accès complet à ça. Et c'est toujours la méthodologie est tellement importante. Comment on demande la question, comment on adresse la question dans la méthodologie, c'est très important. Et c'est pour ça que tout est en train de bouger en ce moment, parce qu'il y a des scientifiques qui trouvent de nouveaux moyens, qui sont plus créatifs.
Sur le chemin donc, de l'intelligence animale, ce livre au lien qui libère, et Franz De Waal, vous êtes notre invité dans La Tête au Carré.
Claire, mais où va-t-on comme ça? Où va-t-on à 7 heures? Tout au bout de la nuit, sans essence au moteur. Et si je sens la pisse, m'aimeras-tu encore? Que tout s'ensevelisse, on ne pourrait pas plus fort. Claire, tu parlais de l'Isère, comme c'est triste l'Isère. Puis tout au bout du compte, tant de choses à défaire. Tant de gens éduqués à la peur, que l'on jette les bouées avec l'argent du beurre. Mais où va-t-on comme ça? Mais où va-t-on comme ça?
Cheval Rex, c'était Claire.
La Tête au Carré. Sur France Inter.
Je voudrais que vous nous parliez maintenant de votre méthode de travail. Je crois que une de ses caractéristiques essentielles, c'est de replacer toujours l'animal dans ses conditions naturelles.
Oui, c'est vrai. Le comportement des animaux, le système nerveux, est un des systèmes des plus compliqués qu'il est dans le monde. Et en approchant un système, on ne peut pas isoler arbitrairement un part et l'étudier isolément. On ne peut pas faire ça. Et
il faut avoir une vue générale de l'individu.
Il faut avoir une vue générale d'abord. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas isoler et expérimenter plus tard. Mais le commencement de l'étude d'un comportement d'une espèce, c'est toujours l'étude de l'organisme et son comportement entier dans l'environnement naturel.
Franz De Waal, vous êtes notre invité cet après-midi. La voix à l'instant de Konrad Lorenz, biologiste, zoologiste, prix Nobel également en éthologie, ce qui est assez rare, qui est décédé en 1989, autrichien, qui vous a beaucoup marqué. C'était vraiment un homme d'influence, en tout cas, pour votre discipline.
Ça ne veut même pas qu'il parle français.
Ouais, vous avez vu ça, c'est un beau document.
Lui, il était très important, bien sûr. Nico Tinbergen et Konrad Lorenz étaient le fondateur de l'éthologie. Et lui, là, qui dit là qu'il faut regarder tout l'animal, il faut connaître tout l'animal, c'est très important.
Ouais.
Parce qu'il y a beaucoup de fautes qui étaient faites dans la recherche des animaux, où on isole une certaine chose, où on n'a pas un bon jugement de tout l'animal. Un exemple, c'est qu'ils ont testé des chats dans certaines boîtes qui pouvaient sortir des boîtes. En touchant avec leur corps une certaine...
Vous le racontez dans le livre, oui.
Oui, un certain morceau de bois qui était dans la botte. Et ils n'avaient même pas remarqué que le chat était en train de faire ça par gentillesse, par l'expérimentateur. Parce que les chats, quand on entre à la maison, si on a des chats, ils font souvent ça. Ils mettent leur corps contre tes jambes, contre le siège de cuisine ou je sais pas quoi. Et les scientifiques, ils n'avaient pas noté que le chat était en train de faire un comportement de greeting,
d'accueil.
D'accueil, oui, c'est ça.
Alors justement, vous parlez des chats, les animaux domestiques, parce que Konrad Lorenz a étudié les animaux sauvages, mais également les animaux domestiques, ils ont été un petit peu mis sur le côté quand même. Les chiens, par exemple, n'ont pas été étudiés pendant très longtemps. C'est quand même étonnant ça, non?
Pendant très longtemps, on trouvait que les animaux domestiques étaient compromisés par l'homme, ils étaient modifiés par l'homme. Et,
c'est pas faux,
faux, non? Il faut faire des études des animaux sauvages comme de loups, de corbeaux, je sais pas quoi. Et maintenant, on est très intéressé dans le chien parce qu'en fait, le chien est très facile à tester parce que le chien est tellement... Il adore faire des choses avec des humains ou pour les humains. Et en fait, ils sont idéaux. Si par exemple, on fait des recherches d'empathie, qu'est-ce que c'est mieux qu'un chien dans un sens? Parce qu'on peut faire des tests, les mêmes tests avec les enfants. Par exemple, avec les enfants, dans la famille, on demande à un membre de famille de pleurer. Et on regarde qu'est-ce que les jeunes enfants, par exemple, un enfant de 2 ans veut approcher et toucher, essayer de calmer la personne qui pleure.
Oui.
Les chiens, ils font exactement la même chose. Et maintenant, on fait beaucoup de recherches sur d'empathie chez les animaux et les chiens sont très importants dans ce genre de recherche.
Et ce sont les rares animaux qui sont capables de rester calmes, ce qui est très utile quand on veut les passer dans un scanner, par exemple.
Oui, on fait ça maintenant à Emory University, on fait ça, on a un scanner dans le bâtiment où je travaille. Et on est en train d'entraîner des chiens se mettre là-dedans et on leur demande des questions. On leur montre des choses qu'ils peuvent manger. On voit quelle partie de leur cerveau sont allumées.
S'active, et ils sont très coopérants, visiblement.
Ouais.
On écoute justement là aussi l'extrait d'un document sur le travail des chiens.
L'éthologue autrichien Ludwig Huber et son équipe réalisent le test suivant. Sur un écran tactile, Tony doit distinguer des expressions de joie et de colère. Un exercice difficile pour le chien, car on ne lui montre qu'une partie du visage humain qu'il doit compléter tout seul. Pour les chercheurs, cela prouverait que Tony n'a pas simplement appris les expressions de visage par cœur, mais qu'il les comprend.
Nous avons cherché à savoir comment le chien comprend l'homme et ce qu'il comprend chez nous. Si les chiens savent interpréter les émotions humaines, comme la tristesse, la joie, la colère, cela veut dire que ces émotions peuvent se transmettre au chien. Il réagit aux émotions, il les partage, et par ce mécanisme, il comprend l'état émotionnel de l'homme.
Franz De Waal, une proximité donc autour des émotions homme-chien.
Ça, c'est le voix de Ludwig Huber qui fait ce genre de recherche à Vienne. Et ça un peu bizarre, bien sûr, parce que on est en train de tester un chien sur discriminer visuellement les expressions humaines. Mais je pense que les chiens sont encore beaucoup mieux dans les choses olfaction. Mm-hmm. Et bien sûr, on cherche toujours à tester les animaux sur les choses que nous, on trouve importantes, comme les expressions faciales.
Ouais.
Mais il y a d'autres façons pour un chien de savoir est-ce qu'on est en colère ou pas en colère.
Oh, il y a une petite critique là, dans ce que j'entends.
Oui, c'est anthropocentrique de tester.
Alors justement,
les chiens sur le visage.
Oui, c'est ça. Oui. Justement, il y a un risque d'anthropomorphisme ou pas, précisément dans votre travail d'éthologue, parce que vous êtes assez mesuré quand même là-dessus.
Oui, oui. Il y a le risque, mais je dirais avec des espèces très similaires à nous, comme d'autres primates.
Les primates, oui.
Le risque est en fait moins grand, dans le sens que si moi je chatouille par exemple un jeune chimpanzé,
il va rire.
Oui, il va rire.
Il va émettre des sons.
Il fait un certain son. Il va rire, il va essayer d'échapper, mais revenir et tout ça. Et comme les enfants. Et moi, je trouve d'appeler ça rire, c'est pas mauvais, forcément.
Oui.
Parce que je pense que les espèces qui sont très près de nous, s'ils font le même comportement dans les mêmes circonstances, il faut assumer que leur psychologie derrière ça, mm-hmm. les émotions derrière ça sont très pareilles aussi.
Mm-hmm.
Mais si on va d'espèces plus distantes, comme par exemple les oiseaux ou les insectes ou les poissons, ça devient plus compliqué de faire ce genre de assumption.
Est-ce que vous avez vu des épinoches rire quand vous étiez petit, par exemple dans vos aquariums, Franz de Waal?
Non,
ces petits poissons.
Ils font pas tellement ça. Ils font d'autres choses qui sont intéressantes, mais ils font pas ça.
Ouais, c'est eux qui vous ont mis un peu le pied à l'étrier quand même, hein, qui vous ont donné envie d'aller plus loin sur le comportement animal.
Oui, j'ai commencé à collectionner comme enfant des animaux aquatiques, des grenouilles, des poissons, des choses comme ça, et essayer de les reproduire. Je trouvais ça très intéressant.
Ah, vous aviez déjà une démarche scientifique alors.
Oui, hein. Oui. Et après ça, j'avais des oiseaux, des souris, des chats. Et après ça, bien sûr, je suis devenu biologue.
C'est ça. Biologiste. Et vos parents ont dû être ravis d'ailleurs que vous consacriez votre temps vraiment à avoir ce métier-là autour des animaux, non? Parce qu'ils étaient nombreux chez vous quand même, toutes ces.
C'était une grande famille et moi j'étais le seul en fait qui était intéressé dans des animaux, c'est bizarre.
Ouais, ouais.
Mais j'étais le seul qui avait cette passion-là, qui venait de ma mère sans doute, parce qu'elle avait ça aussi. Et c'est ma mère qui m'a poussé de faire des études de biologie parce que j'avais un professeur de biologie tellement mauvais et méchant à l'école que j'avais décidé que je ne devenais pas un biologiste.
Ouais, il aurait pu vous dégoûter, ouais.
Oui. Et quand j'ai pris la décision, ma mère disait, mais non, il faut que tu fasses des recherches de biologie parce que tu as toujours eu des animaux.
Mmh. Franz de Waal, vous parlez de cognition évolutive. C'est, mm-hmm. c'est une autre façon de parler de l'intelligence animale.
Oui.
Qu'est-ce que vous y mettez de plus alors dans ce terme alors?
Oui, de voir la cognition et l'intelligence animale comme une adaptation à leur environnement. Au lieu de parler de intelligence, comme il y a seulement une intelligence, je parle d'intelligence. Il y a beaucoup de sortes d'intelligence. Il y a certains animaux qui sont très spécialisés. Il y a certains oiseaux, par exemple, qui peuvent mémoriser la location de 10 000 grains qu'ils ont cachés et qu'ils retrouvent dans le printemps. Il y a des autres animaux qui ont de très grands cerveaux, comme les éléphants, les humains, qui ont plutôt une intelligence généralisée, qui peuvent résoudre beaucoup de sortes de problèmes. Mais il y a toutes sortes d'intelligences dans le monde.
Ouais. Chez le poulpe, par exemple, on peut parler d'une intelligence externalisée, au fond?
Oui, c'est distribué. Il y a beaucoup de neurones dans leur cerveau. Les cerveaux sont très grands pour le poulpe, mais il y a aussi beaucoup de neurones sur leurs bras.
C'est ça.
C'est comme un intranet dans un sens. Et comment on peut... La question, par exemple, les gens demandent qui est le plus intelligent. Est-ce que moi, je suis plus intelligent qu'un poulpe? Ce n'est pas une question que je trouve intéressante. C'est impossible de répondre à cette question-là.
Parce que l'intelligence du poulpe, elle est complètement différente.
Complètement différente.
Anatomiquement différente.
Oui.
Franz de Waal, vous êtes notre invité cet après-midi à l'occasion de la sortie de ce livre « Sommes-nous trop bêtes pour comprendre l'intelligence des animaux ?» C'est au lien qui libère. On se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cet entretien.
La pluie venait du nord. passer sous ma porte. Je compte vivre fort et que le diable m'emporte. J'allais à la fenêtre, enroulé dans un drap. Je secouais la tête et j'en écartais les bras. J'avais des hauts, j'avais des bas, j'avais plus ou moins chaud toute la vie devant moi. J'avais des hauts, j'avais des bas, je crois que j'en voulais trop, j'aimais mieux ce que je ne voulais pas. 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 Je restais enfermé. Errais pendant des jours. Trop des chemins s'ouvraient. Les questions en retour. Je n'avais pas tué mon père, mais je ne me souvenais pas ce qu'il me disait de faire ou ce qu'il ne disait pas. J'avais les hauts, j'avais les bas, j'avais plus ou moins chaud toute la vie. J'avais les hauts, j'avais les bas, je crois j'en voulais trop, j'aimais mieux ce que je ne voulais pas, ce que je ne voulais pas, ce que je ne voulais pas, même ce que je ne voulais pas. Je guettais l'heure et la page où les eaux s'ouvriraient, me laisseraient un passage. L'espoir me faisait vivre, l'attente me rendait nerveux. Je trouvais dans les livres de quoi se patienter un peu.
Stéphane Echer, des hauts et des bas.
La tête au carré sur France Inter.
Et Franz Deval, encore pendant quelques minutes avec nous pour ce livre « Sommes-nous trop bêtes pour comprendre l'intelligence des animaux, au lien qui libère ?» On parlait tout à l'heure des poulpes et des pieuvres. Il y a des comportements qui sont quand même très très étonnants. C'est-à-dire que la pieuvre, lorsqu'elle se sent menacée, est capable de le manifester clairement face à un humain ?
Oui, oui, avec les humains, ils reconnaissent même des humains. Ils ouais. ont testé ça. Même des humains qui ont la même couleur de vêtements, ils connaissent le visage. Alors, il y a une personne, par exemple, qui leur tape sur la tête et une autre qui leur donne la nourriture. Et après un certain temps, après quelques jours, ils reconnaissent l'un et l'autre. Ouais. Ils approchent l'un et pas l'autre et tout ça.
Alors, vous parlez de la coopération aussi. Ça, c'est une forme d'intelligence, hein, savoir réunir ses forces pour faire face à l'adversité ou pour mener quelques combats.
Oui, on fait beaucoup de recherches là-dessus parce que une des choses qu'on dit sur l'homme, c'est que l'homme est capable de supprimer les compétitions pour faire mieux la coopération. Oui. Et nous, on a testé ça avec les chimpanzés. On a testé les chimpanzés dans une tâche de coopération où toutes les autres étaient présents. Alors, tout le groupe de 20 chimpanzés était là. Il y avait plein de chances de faire beaucoup de compétitions. En fait, ils étaient assez compétitifs au début, mais ils ont réussi à supprimer leur compétition et la coopération a gagné. Oui. Et on fait ce genre d'expérience.
Oui. Oui. Alors, chez les orques, on va l'entendre dans le sujet qui va suivre, il y a aussi des possibilités de coopération. Vous allez voir dans quel but.
Les orques vivent en famille. Elles travaillent ensemble à perfectionner leur stratégie de chasse implacable. Les orques se nourrissent d'autres cétacés. Et celles-ci ont repéré un petit rorqual. Les orques cernent rapidement leur cible. Le petit rorqual finit par fatiguer. Et les orques passent à l'offensive. Elles unissent leurs forces pour faire basculer l'animal. Si elles parviennent à maintenir son évent sous l'eau, il finira par se noyer. Une orque bloque son corps entier sous la surface, tandis qu'une autre porte le coup fatal. Tout le groupe maintient sous l'eau son corps sans vie. Et les orques peuvent enfin se nourrir.
Voilà, Franz Obal. Un exemple, hein, parmi tant d'autres.
Oui, ils sont très coordonnés. Il y a une communication là qu'on ne comprend pas complètement parce qu'ils sont extrêmement coordonnés, plus que le singe, plus que l'homme, en fait.
Ouais.
On ne sait pas exactement comment ils font.
On a des hypothèses, en tout cas, sur...
C'est sans doute une communication, une vocalisation sous l'eau. C'est presque sûr que c'est ça. Mais qu'est-ce qu'ils se disent entre eux, nous, on ne sait pas.
Ouais. Alors, il y a plein d'exemples passionnants. Alors, sur des animaux plus inattendus, parce que c'est vrai que vous parlez évidemment de vos primates chéris, mais il n'y a pas que. Par exemple, l'intelligence des moutons, c'est plus surprenant.
Oui, on a fait des recherches sur les reconnaissances de visage.
Ouais.
Et nous, on a commencé avec les chimpanzés parce que les gens, encore, la même chose, ils avaient conclu que seulement l'homme est capable de reconnaître le visage. Et parce qu'ils avaient testé les chimpanzés avec le visage sur un écran d'ordinateur, le visage humain. Le chimpanzé n'était pas très bien là-dedans. Et dans mon groupe de recherche, on avait décidé, peut-être il faut remplacer le visage humain par le visage chimpanzé.
Mm-hmm.
Et c'est ça qu'on a fait. Et ils étaient excellents. Les chimpanzés sont excellents à reconnaître le visage de leur propre espèce. Après ça, on a fait des recherches sur le petit singe. Et après ça, sont venus les moutons. Et après le mouton, et en fait, les guêpes sont venues.
Ah oui, et les guêpes sont capables de reconnaître les visages.
Certaines espèces qui vivent dans de petits groupes, c'est un avantage de reconnaître qui est la reine et tout ça.
Ouais.
Et ça montre encore que l'intelligence dépend un peu de ton environnement et ton natural history, parce que autrement il y a d'autres guêpes qui peuvent rien faire avec le visage, mais cette espèce-là qui a besoin de ça a cette connaissance. Non, avec le mouton, ils ont testé le mouton. Pour nous, le mouton, ils sont tous pareils, on voit vraiment pas de différence.
Non, c'est vrai,
mais
a priori.
Eux, ils sont capables de reconnaître 25 visages comme ça.
Ouais. Chez les alligators, il y a des choses amusantes aussi, hein. Ça, c'est très drôle quand même.
Oui, ça, c'est un truc d'utiliser des outils. Bien sûr, la recherche avec les outils a commencé avec les chimpanzés, le orang-outan, tout ça. Après sont venus les petits singes, après sont venus les corbeaux. Mais maintenant, on a l'utilisation des outils chez les pulpes, mais aussi chez les alligators. Et eux, ils balancent une petite branche sur leur nez. Et ils nagent vers un groupe des oiseaux qui est en train de construire des nids, comme les hérons, qui ont besoin de branches. Et bien sûr, il y a une branche qui flotte dans l'eau pour eux, et ils approchent, et comme ça, ils sont pris par l'alligator.
Voilà. Self-service pour se nourrir. On peut parler du langage chez les oiseaux, Franz de Waal?
Ben, le langage, moi je vois le langage symbolique, comme nous on a, je vois comme très spécial. Et on trouve ça pas tellement chez les animaux, on trouve des petits morceaux peut-être, de petites tendances et de petites capacités, mais pas tout le truc de langage. Mais bien sûr, chez l'oiseau et beaucoup d'autres animaux, il y a une communication très, très avancée.
Mmh.
Ils peuvent communiquer beaucoup de sortes d'informations l'un vers l'autre.
Il y a des perroquets qui ont des capacités quand même étonnantes. Vous citez Alex le perroquet.
Alex était très important parce que il a montré pas forcément la capacité de langage, mais puisqu'il pouvait parler et dire des choses, on pouvait le tester sur des concepts. Et on pouvait montrer, par exemple, 5 objets. Imagine qu'il y a 4 qui sont verts, il y a une qui est bleue. On dit lequel est différent. Et Alex va dire bleu. Ou tu peux le faire toucher certains objets. On peut demander quel matériel. Il va dire du bois. Ou il va dire métal. Il avait le concept comme ça. Et on a toujours pensé que ce genre de concept, on a besoin de langage pour faire ça, mais lui, il fait ça sans ça. Et toute cette idée qu'on a besoin de langage pour avoir une intelligence avancée est en train de tomber en ce moment. Le langage humain est très important pour communiquer des pensées, mais ce n'est pas comme on pense.
Franz Oval, qu'est-ce qui se passe à Atlanta? Alors, dans votre centre de primatologie, il y a une centaine de personnes, de scientifiques, qui sont dans ce centre. Ça fait combien de chimpanzés, à peu près?
Les chimpanzés, on a peut-être 60 en ce moment, mais on a des centaines de primates, là, et on a beaucoup de scientifiques,
Comment vous travaillez au quotidien? Vous dites, c'est important de créer une atmosphère détendue en se montrant ferme et amicaux avec les primates.
Ça, c'est surtout avec les chimpanzés qu'on a besoin de ça. Moi, je travaille dehors de la ville, où il y a un centre dehors, et on a beaucoup de chimpanzés qui vivent dans l'herbe, en fait. Et moi, je peux pas leur forcer dans une expérience. J'ouvre la porte, j'appelle leur nom, et s'ils veulent venir, ils viennent, s'ils veulent pas venir, ils viennent pas. Et quand ils sont entrés dans le bâtiment où on fait le test, on essaie de les calmer, de parler, jouer, épouiller, donner un peu de nourriture. Comme les enfants, on fait comme pour qu'ils soient contents et calmes. Et après ça, on fait notre expérience.
Donc vous êtes au contact direct des animaux?
Non, les chimpanzés sont assez dangereux. Un chimpanzé est beaucoup plus fort que l'homme. Un chimpanzé mâle a 5 fois plus de force dans son bras qu'un mâle humain. Alors, on ne peut pas aller dedans parce que c'est trop risqué.
C'est ça, même pour vous qui les connaissez parfaitement.
Il y a des chimpanzés là que je connais depuis qu'ils sont des bébés.
C'est ça.
Et ils sont très gentils avec moi, mais je ne veux pas dire qu'ils vont dedans. C'est un peu comme un tigre.
C'est ça.
On peut jouer avec un tigre par par les grillages, mais on ne va pas dedans.
Donc le danger des chimpanzés. Quelles sont les questions auxquelles vous aimeriez bien répondre encore autour de ces animaux? Vous connaissez quand même très très bien maintenant. Quelle est la grande question autour des primates, par exemple, à laquelle on aimerait bien avoir une réponse?
Moi, je suis très intéressé dans les émotions. Et mon prochain livre, sans doute, je viendrai ici.
Ah ben, je compte sur vous.
Mais il faut que je l'écris encore. Mais je pense que les émotions, c'est le sujet, c'est les frontières qui viennent pour la recherche sur les animaux.
Et sur les primates, donc, vous testez ça en ce moment?
Oui, on fait beaucoup de tests de sens de justice, d'empathie, de coopération, attachement, tout ça,
Il y a le sens de la justice chez le chimpanzé capable de vous broyer le bras, Franz Zéval?
Nous, on fait des recherches, par exemple, on donne des récompenses différentes à deux singes qui font la même tâche. Et si un reçoit des choses beaucoup mieux que l'autre, l'autre va être un peu en colère. Et c'est aussi comme ça qu'on teste le sens de justice chez les enfants,
Où est-ce que vous avez appris le français, Franz Zéval?
Ma femme est française.
Ah ben voilà, c'est une bonne raison.
Elle vient de Maine-et-Loire.
Elle vous parle en français?
Non, à la maison, on parle hollandais et français.
Ça doit être un joli
mélange. Pas beaucoup d'anglais. On habite en Amérique, mais on parle français et hollandais. J'ai dit toujours, pour rigoler, qu'on utilise le français pour la cuisine et tout ça. Et dès que les choses deviennent complexes et avancées intellectuelles, on parle hollandais. C'est pour insulter le français que je dis ça.
C'est pas très gentil de terminer là-dessus, franchement. Je sais pas si je vais vous réinviter pour votre prochain livre sur les émotions. Il faudra vous rattraper d'ici là. Merci, Franz Zéval. Sommes-nous trop bêtes pour comprendre l'intelligence des animaux? C'est aux éditions Les Liens qui Libèrent. Merci d'être venu dans La Tête au Carré.
De rien.
À bientôt. La Tête au Carré, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, vous retrouverez Daniel Fievé pour le dernier club de la saison. Et moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès la rentrée de septembre. Bon week-end.